Alors, bonjour à tous. Nous abordons aujourd'hui un nouveau chapitre que j'ai intitulé « Ce que être un homme signifie ». On va voir ce qui fait l'identité de la personne humaine et la nécessité pour elle de vivre au sein d'une communauté. Donc d'abord l'introduction, je vous rappellerai que l'homme a été créé à l'image de Dieu et que cette image ne peut être détruite. Elle est, souvenons-nous, inadmissible, indestructible. L'homme nous apprend la constitution pastorale Gaudium et Spes est, je cite, « la seule créature que Dieu a voulu pour elle-même et qui ne se trouve pleinement que dans le don désintéressé de lui-même ». La vocation de l'homme ne se trouve pas dans le repli ou l'isolement, repli sur soi, repli identitaire, communautaire, etc., qui insiste sur l'appartenance et l'inclusion. Je suis bien plus que cela, parce que mon être tout entier est un être d'ouverture, un être de relation, un être dialogique qui ne saurait être circonscrit dans des catégories ou des obédiences figées et rigides. D'un point de vue existentiel, je suis donc un être en relation. Mais le risque est bien l'éclatement du sujet, du moi. Savoir que cette relation, cette ouverture, ne peuvent se faire que sur une base substantielle qui garantit l'ipséité de l'individu. L'ipséité, ça veut dire l'être même de l'individu, son identité, ou encore sa permanence à travers ses actes et les changements qu'il subit. La personne, dit-on en théologie, et particulièrement pour Thomas, est subsistante et relationnelle. Elle est subsistante parce que la personne a quelque chose en elle qui permane, qui dure, en dépit des changements. Hein, je suis la même à 10 ans, 15 ans, 40 ans, 80 ans. Donc ça, c'est pour ce qui est de mon ipséité, de la subsistance, et je suis en relation. C'est-à-dire que je suis aussi constituée par le fait d'être en relation. Mais le problème, c'est que cette relation qui me met en contact avec le monde ne doit pas philosophiquement mettre à mal la permanence de mon identité. Le don désintéressé de soi dont parle Gaudium et Spes est ce don qui transgresse et transperce les frontières, les rôles, les statuts pour que nous soyons des êtres verts, des êtres tournés ou dirigés. Une telle ouverture se dit dans différentes sphères qui, au fond, se rejoignent en leur point transcendant et vertical qui est Dieu. Je suis en vue de l'environnement, de la planète Terre, et ce parce que je suis en vue de l'humanité de l'homme que je rencontre dans chacun, chaque prochain. Et à nouveau, chacun de ces prochains étant une créature aimée et voulue par Dieu, je suis en vue de Dieu lui-même. En cela, suis-je responsable de la création, des autres, et finalement de Dieu lui-même, qui ne peut réaliser son projet sans le libre consentement actif des hommes. Mais cette transcendance de l'homme, c'est-à-dire cette faculté de se dépasser lui-même, ne peut se faire que sur la base d'un fondement ontologique, c'est-à-dire un fondement d'être, conféré par Dieu, qui est le fait d'être une personne. Ces deux traits fondamentaux font en quelque sorte l'humanité de l'homme, qui est, pour reprendre l'expression de Pascal, ni ange ni bête. Incarné, fait d'un corps dont nous ressentons en permanence les aléas vitaux et pulsionnels, l'homme se distingue de la pure créature spirituelle qu'est l'ange. Doué d'une âme intellectuelle qui nous rend capables d'intellection et de liberté, nous expérimentons la vie de l'intellect et de l'action libre. Voici l'homme, cette créature ni purement spirituelle ni purement corporelle, mais à la fois spirituelle et corporelle. Ce cours a pour objectif d'expliquer cette singularité humaine. Alors, grand 1, l'homme, âme et corps, corps et âme, ou l'indissociabilité de Dieu, des deux. Je vous lis un passage de Gaudium et Spes, c'est le paragraphe 14, qui s'intitule « Constitution de l'homme ». corps et âme, mais vraiment un, l'homme est, dans sa condition corporelle même, un résumé de l'univers des choses qui trouvent ainsi, en lui, leur sommet et peuvent librement louer leur créateur. Et il est donc interdit à l'homme de dédaigner la vie corporelle. Mais au contraire, il doit estimer et respecter son corps qui a été créé par Dieu et qui doit ressusciter au dernier jour. Toutefois, blessé par le péché, il ressent en lui les révoltes du corps. C'est donc la dignité même de l'homme qui exige de lui qu'il glorifie Dieu dans son corps, sans le laisser asservir au mauvais penchant de son cœur. En vérité, l'homme ne se trompe pas lorsqu'il se reconnaît supérieur aux éléments matériels et qu'il se considère comme irréductible, soit une simple parcelle de la nature, soit un élément anonyme de la cité humaine. Par son intériorité, il dépasse en effet l'univers des choses. C'est à ses profondeurs qu'il revient lorsqu'il fait retour en lui-même, où l'attend ce Dieu qui scrute les cœurs et où il décide personnellement de son propre sort sous le regard de Dieu. Ainsi, lorsqu'il reconnaît en lui une âme spirituelle et immortelle, il n'est pas le jouet d'une création imaginaire qui s'expliquerait seulement par les conditions physiques et sociales, mais, bien au contraire, il atteint le tréfonds même de la réalité. Il y a dans cet extrait de Gaudium et Spes plusieurs points essentiels qui sont au fondement de l'anthropologie chrétienne. À cet égard, finalement, peu de choses ont doctrinalement changé depuis les mises au point faites par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, le docteur commun de l'Église. Dans le premier paragraphe, il y a l'affirmation de l'unité de l'âme et du corps, l'affirmation de l'homme comme résumé de l'univers, l'affirmation de la dignité du corps en raison de la résurrection de la chair, mais nécessité d'une maîtrise des mauvais penchants provenant du péché. Dans le deuxième paragraphe, affirmation de l'homme dans sa supériorité par rapport à la pure matérialité, l'affirmation de son rôle actif au sein de la communauté humaine, affirmation d'une liberté irréductible et irréfragable en raison de la présence de Dieu en son corps. Alors, petit 1, l'homme, créature spirituelle et corporelle, est sommet de la création. Je vous lis ce texte admirable de Thomas d'Aquin qu'on trouve dans la Somme contre les gentils. De cette manière, on peut observer une admirable connexion entre les choses. On trouve toujours, en effet, que ce qu'il y a de plus bas dans le genre supérieur touche à ce qu'il y a de plus haut dans le genre inférieur. Par exemple, certaines espèces, dans le genre des animaux, sont à peine au-dessus de la vie des plantes, comme les huîtres, qui sont immobiles et n'ont que le toucher, et sont fixées à la terre comme les plantes. C'est pourquoi le bienheureux Denis, au 7e chapitre des Noms divins, dit que la sagesse divine unit l'achèvement du supérieur au commencement de l'inférieur. Il faut donc entendre que ce qu'il y a de plus haut dans le genre des corps, à savoir le corps humain, avec sa complexion équilibrée, atteint ce qu'il y a de plus bas dans le genre inférieur, à savoir l'âme humaine, qui tient le dernier degré dans le genre des substances intellectuelles, comme on peut le percevoir en considérant son mode de pensée. De là vient que l'âme intellectuelle est appelée horizon et confin des réalités corporelles et incorporelles, confère le livre des causes, en tant qu'elle est une substance incorporelle qui est pourtant forme du corps. Or, ce qui est composé d'une substance intellectuelle et d'une matière corporelle n'en est pas pour autant moins un que ce qu'il est de la forme du feu et de sa matière, mais plutôt davantage. Car plus la forme l'emporte sur la matière, plus le composé qui en est formé avec la matière est un. Dans ce texte, Thomas réaffirme, je cite Jean-Pierre Torel, un grand commentateur de Thomas, « l'antique doctrine de l'homme microcosme, réalisant en lui-même l'univers en miniature. Il y a entre les êtres participation et continuité, qui garantissent à l'univers son harmonie où le plus grand contient toujours en lui le plus petit, et ce jusqu'à l'homme qui rassemble en lui toute l'échelle des êtres. L'univers est une scala naturae, une échelle de la nature, qui atteint son sommet en l'homme. Ceci est important à comprendre, afin de ne pas réduire, comme le font les sciences mathématico-physiques, l'univers à une pure quantité. Mais aussi d'un point de vue anthropologique, on constate bien que l'homme, parce qu'il intègre en lui toutes les formes de vie possibles, depuis la vie végétative de la plante, est une unité vivante de fonctions vitales et d'actes spirituels. Les uns et les autres ne sauraient être séparés. C'est bien ce que nous expérimentons, n'est-ce pas ? Qui peut prétendre penser sereinement quand s'il souffre de la faim, de la soif, d'un handicap physique ou psychologique ? Qui peut agir en toute liberté si des perturbations psychologiques affectent la capacité délibérative et décisionnelle ? Je pense par exemple aux addictions. La fin du texte va maintenant être expliquée. La fin du texte qui dit « Or ce qui est composé d'une substance intellectuelle et d'une matière corporelle n'en est pas pour autant moins un que ce qu'il est de la forme du feu et de sa matière, mais plutôt davantage, car plus la forme l'emporte sur la matière, plus le composé qui en est formé avec la matière est un. » Elle affirme un point de vue essentiel de l'anthropologie chrétienne, déjà esquissé par ce que l'on vient de dire. L'unité de l'homme, de la matière et de la forme, c'est-à-dire du corps et de l'âme. Alors, petit 2, l'unité de l'âme et du corps. Alors d'abord, voyons ce que l'homme n'est pas. La conception chrétienne de l'homme se fonde sur un constat fondamental. L'homme ne saurait se réduire ni à son âme, ni à son corps, mais à l'unité des deux. En d'autres termes, il est l'intermédiaire entre l'ange et la bête. L'homme n'est pas un ange, il n'est pas une créature purement spirituelle. Ainsi, certaines positions philosophiques, considérant le corps comme une prison, ne sont pas envisageables dans une perspective chrétienne. Telle est la position gnostique, par exemple, dont on a déjà parlé, qui envisage le corps comme la prison de l'âme, ou encore celle que Platon décrit dans le Phédon et dont je vous lis le texte suivant. Tant que nous aurons notre corps et que notre âme sera embourbée dans cette corruption, jamais nous ne posséderons l'objet de nos désirs, c'est-à-dire la vérité. Car le corps nous oppose 1000 obstacles par la nécessité que nous sommes de l'entretenir et avec cela les maladies qui surviennent troublent nos recherches. D'ailleurs, il nous remplit d'amour, de désirs, de craintes, de 1000 imaginations et de toutes sortes de sottises, de manière qu'il n'y a plus rien de vrai que ce que l'on dit ordinairement, que le corps ne nous mène jamais à la sagesse. Car qui est-ce qui fait naître les guerres, les séditions et les combats ? Ce n'est que le corps avec toutes ses passions. En effet, toutes les guerres ne viennent que du désir d'amasser des richesses et nous sommes forcés d'en amasser à cause du corps, pour servir comme des esclaves à ses besoins. Voilà pourquoi nous n'avons pas le loisir de penser à la philosophie, et le plus grand de nos maux encore, c'est que, lors même qu'il nous laisse quelques loisirs et que nous nous mettons à méditer, il intervient tout un coup au milieu de nos recherches, nous embarrasse, nous trouble et nous empêche de discerner la vérité. Il est donc démontré que si nous voulons savoir véritablement quelque chose, il faut que nous abandonnions le corps et que l'âme seule examine les objets qu'elle veut connaître. C'est alors seulement que nous jouirons de la sagesse dont nous nous disons amoureux, c'est-à-dire après notre mort et point du tout pendant cette vie. Le corps platonicien est à l'origine, vous voyez, de tous les maux, au premier rang desquels l'empêchement qu'il constitue pour penser et philosophie. C'est une philosophie dualiste. Elle oppose le corps à l'âme, faisant du corps l'ennemi à abattre. Et elle réduit l'homme à n'être qu'une âme intellectuelle. Or, comme le souligne Thomas d'Aquin, l'âme n'est pas tout l'homme. Mon âme, ce n'est pas moi. Voyez que Platon a aussi ici une conception un petit peu tragique du corps, dans la mesure où il fait, dans cette perspective dualiste, il fait que le corps est à l'origine de tous les maux, alors que par exemple, dans une perspective chrétienne, l'orgueil, c'est-à-dire le premier péché, ne provient pas du corps, mais bien de l'âme. Hein? Et ensuite, il dit que le corps, finalement, c'est l'ennemi à abattre. Il a cette expression ailleurs, hein, le corps, c'est le tombeau de l'âme. C'est-à-dire que le corps enferme l'âme et tue l'âme, finalement, enfin, il rend l'âme morte et prisonnière. Donc, il y a chez Platon, véritablement, un déni et un mépris du corps qui n'est pas du tout ce qui n'est pas du tout la perspective chrétienne. Quoique certains courants spiritualistes et ascétiques chrétiens y aient un petit peu adhéré. Hein. Bon, mais ça, c'est autre chose. Bon. Mais à l'opposé, il faut que nous disions aussi que l'homme ne se réduit pas non plus à son corps, comme le défendent les philosophes matérialistes, Empédocle, Démocrite, Épicure. L'homme partage avec la bête le fait d'avoir un corps. Mais à la différence de celle-ci, il ne s'y réduit pas. Sa vie n'est pas uniquement dirigée par le principe de plaisir et de peine. Il ne passe pas son temps à rechercher l'utile ou à fuir le nuisible. L'homme a cette capacité de poser des actes intellectuels de connaissance et de poser des actes libres et d'amour. Alors, second point, l'âme est l'acte du corps. Alors, je vais développer un peu cette théorie que l'on trouve chez Thomas. Pour Thomas, tous les êtres vivants ont une âme, mais tous n'ont pas la même âme. Il reprend la théorie aristotélicienne de l'âme comme acte d'un corps ayant la vie en puissance. L'âme donne au corps sa forme par laquelle il devient vivant. Pour le végétal, l'âme, par exemple, donne la capacité de se nourrir et de croître. Il y a donc une âme qu'on appelle végétative. Pour l'animal, elle donne de surcroît la capacité de se mouvoir et de sentir. Il y a donc une âme locomotrice et une âme sensitive. Pour l'homme, elle donne de surcroît, la capacité de connaître. L'âme, donc, donne vie au corps de telle façon qu'elle fait avec lui un être un. L'âme est l'acte premier du corps, c'est-à-dire ce qui fait que le corps existe comme corps organisé et vivant. En l'homme, c'est donc l'âme intellectuelle qui constitue la forme du corps. Voici un passage de Thomas. Il est nécessaire d'affirmer que l'âme intellectuelle, principe de l'activité intellectuelle, est la forme du corps humain. Le principe immédiat de l'activité d'un être, c'est la forme de cet être auquel une activité est attribuée. Ainsi, le principe immédiat de la guérison du corps, c'est la santé. Celui du savoir dans l'âme, c'est la science. La santé est donc forme pour le corps, et la science forme pour l'âme. Car un être agit en tant qu'il est en acte, et ce par quoi il agit, c'est cela même par quoi il est en acte. Or, le principe immédiat de la vie du corps, c'est l'âme. Et comme la vie se révèle par des activités qui varient selon le degré des êtres vivants, le principe immédiat de chacune des activités en eux, c'est l'âme. L'âme est principe qui nous fait nous développer physiquement, sentir, nous mouvoir dans l'espace et pareillement penser. Ce principe de notre pensée, qu'on l'appelle intelligence ou âme intellectuelle, est donc la forme du corps. Telle est la démonstration d'Aristote. Alors, vous voyez que Thomas, avec Aristote, fait de l'âme intellectuelle la forme du corps, c'est-à-dire ce qui rend le corps humain, vivant, organisé et capable d'intelliger, capable d'intellection. Donc, c'est donc l'intelligence ou l'intellect, ou encore le principe intellectif, qui est la forme du corps. C'est uniquement lorsque l'âme vivifie le corps que celui-ci est véritablement corps. En ce sens, un cadavre n'est plus un corps. De même, l'âme séparée du corps n'est pas dans un état naturel. Elle n'est pas une substance complète existant par soi. Le corps a besoin de l'âme, mais de son côté, l'âme a besoin du corps. Elle n'est pensable qu'en tant qu'âme de ce corps-ci, qu'en tant que destinée à lui être unie. L'âme humaine est intellective, mais à la différence des autres créatures spirituelles que sont les anges, cette âme a besoin d'un corps. Sans lui, elle ne saurait se livrer à son activité la plus noble, l'intellection. Je cite de nouveau Thomas, « Le corps paraît tout à fait nécessaire à l'âme intelligente pour l'opération propre à celle-ci, qui est de penser. » Une telle anthropologie est capitale pour comprendre deux aspects de la foi chrétienne, à savoir l'immortalité de l'âme et la résurrection de la chair. L'âme a besoin du corps pour connaître, mais elle est capable d'abstraction et d'intelligence des formes intelligibles, à savoir que les représentations sensibles reçues au moyen des sens sont dépouillées de leurs conditions matérielles et acquièrent alors une nature rationnellement connaissable. Je vous donne un exemple. Comment est-ce que je me forme, par exemple, l'idée d'un triangle? C'est parce que j'ai vu plusieurs triangles matériels et que, en dépouillant les particularités de chaque triangle, qu'il soit rectangle, isocèle, scalène, rouge, noir, vert, je me forme l'idée générale du triangle. Hein, ce que Thomas appelle forme intelligible. Ce qui veut dire que l'âme humaine ne s'épuise pas dans la fonction d'animation du corps, comme par exemple l'âme de la bête, mais pose des actes proprement intellectuels. Nous sommes capables de penser l'essence des choses, de penser immatériellement, par voie d'abstraction. Les choses naturelles. Pardon, de penser par voie d'abstraction les choses naturelles. C'est-à-dire passer des impressions sensibles à la considération de leur essence. L'intellect sépare l'essence ou la forme de la matière. Mais pour qu'il puisse œuvrer, il dépend du corps. L'intellect dépend donc du corps pour exercer son activité, mais les actes intellectuels en eux-mêmes sont incorporels. Il y a donc en l'âme une partie qui est immortelle, car sans mélange avec le corps, et c'est l'âme en tant qu'elle est active, ou l'intellect agent. Mais je ne développe pas parce que c'est un peu trop technique. Déjà, je trouve que le cours est certainement très technique pour vous. L'âme qui est immortelle voit donc Dieu dans l'au-delà. Mais cette vision de Dieu qu'on appelle vision béatifique est un état intermédiaire qui n'est pas la véritable béatitude, qui consistera à la résurrection de la chair, c'est-à-dire lorsque les âmes retrouveront leur corps afin de former à nouveau des substances. Et nous verrons ça dans un autre cours. Je vais m'arrêter là. Ça ne fait que 25 minutes d'enregistrement. Mais je pense que c'est suffisamment dense pour que vous puissiez y réfléchir, faire un petit peu vos recherches personnelles. J'aborderai le grand 2, personnes et communautés, dans un autre audio. Et préparez vos questions, parce que je pense qu'il va y avoir des questions techniques sur ce que je viens de dire, des questions aussi sur est-ce que cette anthropologie de l'âme forme du corps est encore actuelle, étant donné les avancées scientifiques. Préparez bien vos questions, lisez bien le cours, et je vous dis à bientôt, et voilà. Merci de m'avoir écouté, au revoir.